un œil ailleurs, un petit tour de la planète, totalement subjectif.
Pour ce premier petit tour de la planète de la saison, nous démarrons notre virée par la Chine. Et non, monsieur, dame, il ne sera pour autant question ni de droits de l'homme, ni d'aberration économique ou écologique, mais plutôt de service aux femmes. Je m'explique. Sur le modèle des maid cafés japonais, où des minettes habillées en soubrettes sont payées pour cajoler les hommes, les butler cafés chinois mettent des majordomes à disposition des femmes pour les écouter et s'occuper d'elles. Majordomes qui ont donc pour atout d'être jeunes, sveltes, séduisants et bien sapés. Mais eux ne sont pas habillés en domestique et ne proposent aucun contact physique, signe que les femmes ne pourront jamais s'aligner, et c'est tant mieux, sur les idéaux masculins. Reste que les femmes peuvent quand même choisir la tenue de leur majordome. Bref, pour 400 yuan ou 52 euros, les femmes, plutôt diplômées, se payent un jeune homme pour les écouter, leur servir des verres ou même regarder un film ensemble. L'une des trois créatrices du concept explique que c'est une manière de créer un lieu où, je cite, « les femmes ont le contrôle », en d'autres termes, de sortir du patriarcat. Comme l'explique une jeune habituée de 24 ans, qui préfère la compagnie facturée des majordomes à celle des puxinnan, un terme popularisé par une humoriste chinoise qui vise, je cite, « des hommes médiocres et pourtant très confiants ». Bref, chacun sa façon de vivre le féminisme. À propos de libération des femmes, on file maintenant au Mexique, où le 7 septembre, la Cour suprême mexicaine a déclaré inconstitutionnelle la criminalisation de l'avortement dans l'état du Coahuila, au nord du pays, où les femmes pouvaient faire jusqu'à 3 ans de prison ferme pour avortement. Alors certes, la décision ne légalise pas l'avortement dans les 30 États mexicains où il est encore interdit, mais les tribunaux du pays ne peuvent désormais plus poursuivre les femmes pour délit d'avortement. Et en cas de zèle, la justice fédérale pourra annuler le jugement. Hasard ou pas, la décision mexicaine est tombée 6 jours après que la Cour suprême des États-Unis voisins ait refusé de se prononcer et donc d'interdire l'entrée en vigueur d'une loi anti-avortement hyper restrictive au Texas. Parce que au-delà d'interdire l'avortement même en cas d'inceste ou de viol, la loi permet à n'importe quel quidam d'attaquer en justice toute personne qui aidera une femme à avorter et, tenez-vous bien, de recevoir jusqu'à 10 000 dollars de dommages et intérêts, même s'il n'a strictement rien à voir avec la femme qui s'est fait avorter. En résumé, le Texas ouvre la voie à un nouveau type de chasseurs de primes, les anti-avortements. Et une fois n'est pas coutume, il est fort probable que ce soit les femmes texanes qui traversent la frontière américaine pour se faire avorter en toute impunité. Allez, on poursuit notre périple vers des terres un peu plus progressistes. On file à Helsinki, en Finlande. Le maire Juhana Vartiainen a une idée radicale pour attirer des salariés dans sa ville, la rendre anglophone. Eh oui, la Finlande a certainement de très beaux atouts pour les travailleurs qualifiés et les têtes chercheuses. Preuve en sont Nokia, la 5G, le système Linux. Mais le finnois, c'est vraiment pas possible. Selon le département d'État américain, il faut 1100 heures de cours pour atteindre un niveau acceptable en finnois. Certes, c'est moitié moins que pour se débrouiller en arabe, en chinois ou en coréen, mais ça reste trop. Alors il faut dire qu'en langue étrangère, les Américains trouvent vite l'effort insurmontable. Mais bon, le résultat est là, un tiers des diplômés étrangers quittent la Finlande un an après leurs études à cause du finnois. En adoptant l'anglais comme langue officielle dans sa ville, eh bien le maire d'Helsinki espère donc faire venir et surtout rester les travailleurs qualifiés dans l'intelligence artificielle et les télécoms. Alors ce qu'on a peut-être oublié de préciser à monsieur Vartiainen, c'est que parler anglais ne protège pas encore des températures glaciales et de la nuit interminable en hiver. Et on termine notre petit tour de la planète en s'arrêtant sur une étude de la revue The Lancet Planetary Health qui nous révèle le nom de la maladie du siècle, l'éco-anxiété. 45% des 16-25 ans interrogés dans 10 pays affirment que le changement climatique et l'inaction des gouvernements les empêchent de se nourrir, de dormir, d'étudier ou de s'amuser. Et le mal est profond, puisque 75% des sondés jugent l'avenir effrayant et 56% estiment que l'humanité est condamnée au point que 39% hésitent à avoir des enfants. Sans réelle surprise, les jeunes les plus déprimés se trouvent dans les pays du Sud les plus concernés par le changement climatique, à savoir les Philippines, le Brésil et l'Inde. En Europe, c'est au Portugal que le taux est au sommet. Le plus inquiétant dans l'histoire, c'est que ce sondage a été réalisé avant les catastrophes climatiques de l'été. Chers auditeurs, je vous souhaite donc de tenir bon et de croire en un avenir meilleur pour vous retrouver ici même dans 15 jours.